C'est l'heure de la Terre au carré avec Mathieu Vidard et son invité scientifique. Aujourd'hui, Mathieu, nous parlons de la qualité des eaux de baignade.
Et oui, Bruno, car à quelques jours des vacances, nous avons tous envie de savoir dans quoi nous allons plonger nos doigts de pied. Et pour le savoir, eh bien, on peut par exemple se pencher sur les résultats du rapport de l'évaluation annuelle de l'Agence européenne pour l'environnement qui ont été publiés la semaine dernière. Un travail basé sur 22 295 sites de baignade répartis donc dans toute l'Europe et qui englobe les eaux intérieures comme les fleuves, les rivières ou les lacs et les eaux côtières de la façade maritime européenne.
Et comment sont contrôlées les eaux de baignade?
Alors, en France, par exemple, Bruno, plus de 3000 sites font l'objet de prélèvements réalisés par les agences régionales de santé pour assurer la sécurité des baigneurs. Ce sont ainsi plus de 34 000 échantillons qui sont prélevés et analysés. Les résultats sont ensuite utilisés pour évaluer et classer la qualité des eaux de baignade selon 4 niveaux, excellente, bonne, suffisante ou insuffisante. Et concernant ces analyses microbiologiques, seules certaines bactéries sont recherchées, notamment les germes d'Escherichia coli et les entérocoques intestinaux. Ces germes constituent un indicateur du niveau de pollution par les eaux usées et traduisent donc la probabilité de la présence de germes pathogènes qui sont donc susceptibles de provoquer des maladies. Les recherches sont donc principalement basées sur les contaminations fécales, les bactéries et les virus, avec des risques sanitaires qui concernent donc la gastro-entérite, les infections, ORL, les otites et les conjonctivites.
Et que nous disent les résultats pour 2019?
Eh bien que la qualité des eaux de baignade reste élevée avec des normes minimales qui ont été respectées dans 95% des sites prélevés. À noter que la qualité des sites côtiers est généralement supérieure à celle des eaux intérieures. Et c'est Chypre qui arrive en tête de ce classement européen, suivi de l'Autriche, Malte, la Grèce et la Croatie. La France, qui était déjà mauvaise élève l'année dernière, n'arrive qu'à la 18e place. 2,2% de nos sites sont de mauvaise qualité. Alors vous l'avez compris, ces résultats sont une photographie générale de l'année 2019. Mais pour savoir quelle est la qualité de l'eau au moment où vous allez vous baigner, il faut des analyses réalisées en temps réel. Oui. Cette qualité pouvant changer très vite, évidemment, en fonction des pollutions et de la météo. Et c'est là que le bas blesse, car les analyses microbiologiques des eaux de baignade européennes ne représentent qu'un morceau du spectre. Les résultats dont je viens de vous parler oublient, par exemple, d'intégrer l'état chimique et écologique de l'eau, ce qui exclut, par exemple, les perturbateurs endocriniens ou les microplastiques. Et lorsque l'on prend en compte ces paramètres, Bruno, les évaluations indiquent que 60% des habitats marins et côtiers sont en réalité en très mauvais état de conservation en raison des différentes pollutions. C'est donc le moment d'en parler avec notre invité pour comprendre sur quelles données finalement se baser pour connaître réellement le bon état de l'eau.
Et bonjour Élodie Martini-Cousty.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Merci d'être avec nous. Vous pilotez le réseau Océan, Mer et Littoraux à France Nature Environnement et vous êtes présidente du groupe Environnement et Nature du Conseil économique, social et environnemental. Il y a déjà des questions pour vous au standard, mais la première question, c'est une tradition, c'est pour Mathieu Vidard.
Élodie Martini-Cousty, donc selon le rapport européen, la qualité des eaux de baignade européennes donc serait élevée, mais est-ce qu'il faut pour autant s'en réjouir? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, il faut quand même s'en réjouir parce que ça veut dire que globalement, dans l'ensemble de l'Europe, on fait attention à la question de la qualité des eaux de baignade. Et c'est quand même ça que les touristes vont regarder quand ils vont choisir une destination où ils auront envie de se baigner. Mais malheureusement, ça ne suffit pas parce qu'il suffit qu'il ait plu fortement la veille d'un jour où vous avez envie de vous baigner pour mettre à mal toute la qualité de l'eau de baignade du secteur où vous êtes. Donc ça ne peut pas suffire. Il faut vraiment se renseigner à la fois en temps réel auprès des communes qui font régulièrement des analyses. Et puis, il faut regarder au-delà de la directive eau de baignade. Je signale pour les auditeurs qu'il y a deux autres directives européennes, la directive cadre sur l'eau, qui étudie le bon état écologique des masses d'eau souterraines, des masses d'eau de surface, qu'elles soient douces et côtières. Et puis la directive cadre stratégie sur le milieu marin, où là, sur 11 descripteurs, il n'y en a pas moins de 7 qui concernent la qualité de l'eau. Ça va des pollutions microplastiques, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, aux perturbateurs endocriniens, mais aussi à tout ce qui est cyanobactéries, pollution algale, et autres pollutions médicamenteuses qu'on peut retrouver malheureusement dans l'eau qui est un vecteur de virus et de bactéries naturelles.
Alors à propos de pollution médicamenteuse, nous avons Caroline au standard de France Inter. Bonjour Caroline.
Oui, bonjour. Vous... Bonjour, voilà. Bonjour, voilà. J'habite sur la côte basque. Oui. Sur la côte basque. Et donc sachant qu'il y a une station thermale qui est Cambo-les-Bains. Je sais que tout se déverse dans le fleuve qui s'appelle la Nive et qui rejoint forcément le fleuve Adour qui se déverse dans l'océan. Et donc, il y a beaucoup de curistes qui viennent, tous ces curistes prennent des médicaments, tous ces médicaments, toutes ces molécules vont directement dans l'eau, ne sont pas traités. Il y a une station thermale en aval de Cambo, mais forcément, cette station thermale ne sait pas traiter toutes ces molécules. Donc, c'est des milliers de curistes qui viennent à Cambo. Et nous buvons de cette eau. Tout le BAB est alimenté par cette station cette station d'épuration qui se trouve en aval de Cambo. À partir de Cambo, l'eau devient imbuvable.
Merci
donc, la personne à l'antenne a parlé justement de ces pollutions médicamenteuses, mais voilà.
On va l'interroger à nouveau là-dessus. Élodie Martini-Cousty, est-ce que cette question de pollution créée par les rejets de stations thermales dans les villes de cure, est-ce que c'est un problème très identifié, surveillé de près?
Alors, ces pollutions médicamenteuses, elles sont... bien sûr dans les stations thermales, mais elles sont dans toutes les villes de France. Parce qu'en fait, nos stations d'épuration, qui sont financées par nos communes et au départ par les agences de l'eau, grâce à une redevance que nous payons sur nos factures d'eau, ne peuvent pas traiter malheureusement toutes les pollutions médicamenteuses. C'est-à-dire dès qu'un médicament sort, les stations n'ont pas le temps de se mettre à niveau pour traiter telle ou telle molécule. Il y a une solution, hein, et il y avait une solution naturelle, parce que souvent on voit que les solutions sont fondées sur la nature, ce sont les zones humides, c'est-à-dire que il y avait des pollutions dans la nature, quelles qu'elles soient. Les zones humides, les milieux humides permettaient de filtrer très très profondément tout type de pollution, dont les pollutions médicamenteuses. Et il y a d'ailleurs en France une grande entreprise qui gère des stations d'épuration et la qualité de l'eau qui a repris ce modèle. Pour aller au-delà de ce que sont capables de faire aujourd'hui nos stations d'épuration. Pourquoi aujourd'hui nos stations d'épuration ne peuvent pas traiter la plupart des résidus médicamenteux? C'est parce que ça coûte très cher. Ce sont des traitements aux ultraviolets. Et aujourd'hui, elles ne sont pas toutes capables de le faire. Donc, que ce soit les stations thermales, les stations des entreprises et industrielles ou nos stations d'épuration qui gèrent nos eaux usées pour les citoyens, elles sont dans l'incapacité de traiter tout ça. Donc il faut trouver un moyen en permanence d'augmenter ces solutions, de les mettre à niveau et de les financer.
Anne-Marie, vous vouliez ajouter un mot?
Je peux intervenir?
Oui.
Il y a de moins en moins de zones humides au Pays Basque puisqu'il y a une pression foncière considérable pour construire de plus en plus. Donc, la preuve, il y avait une zone humide formidable là où était construit le magasin IKEA. Excusez-moi de la nommer. Il y a une zone de fret qui s'est fait sur une zone humide qui était fondamentale. Et tout ça est en train d'être détruit sous la pression foncière. Il n'y a plus de zones humides qui, justement, peuvent...
Jouer le rôle de filtrant. Merci, Caroline. J'ai confondu votre prénom avec celui d'une auditrice qui va sans doute arriver dans les minutes à venir. Mathieu Vidard, une question de votre part.
Oui, si on souhaite avoir une analyse plus fine de la qualité des eaux de baignade, finalement, en prenant en compte les autres paramètres au-delà de la microbiologie, comment est-ce qu'on fait et auprès de qui on peut s'adresser?
Alors, on peut s'adresser auprès des agences régionales de santé, mais surtout pour les qualités écologiques et le bon état des lieux, c'est l'ADREAL, ce sont les préfectures et ce sont les communautés de communes. Qui sont censés aussi, via leur service de gestion des eaux, pouvoir donner des informations sur la qualité de l'eau. Alors sinon, vous aurez des professions qui sont particulièrement intéressées par la qualité des eaux, comme les ostréiculteurs et les mytiliculteurs, c'est-à-dire les éleveurs de moules et de coquillages, qui seront particulièrement intéressés et qui pourront vous donner des renseignements. Mais de façon générale, ce sont les services de l'État et les élus, donc les communautés de communes, ainsi que les services sanitaires.
Question d'Anne au standard de France Inter. Bonjour Anne.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà. Donc, une des réponses pour protéger, préserver l'eau ne serait-elle pas la séparation des eaux à la source par des noues végétalisées pour récupérer les eaux de pluie, des toilettes sèches? Et est-ce qu'il ne faudrait pas plus promouvoir tous ces systèmes, et notamment dans les lieux publics? Enfin, moi, je suis en train de concevoir avec une équipe, on a conçu un cinéma qui a énergie positive, qui est bas carbone, qui est zéro déchet. Il y aura des toilettes sèches qui existent déjà dans une école maternelle dans le Gers. Et voilà, je pense que on parle de la crise du cinéma et du Covid, c'est en plus moins propagateur de virus. Donc quelles aides on peut aussi avoir pour tout ça? Enfin, il y a plein de questions en fait, désolé.
C'est pour ça qu'on y consacre une émission, ne soyez pas désolé. Et notre invité va vous répondre, Élodie Martini-Cousty.
Alors, toutes les initiatives que vous pourrez prendre pour réduire les pollutions, madame, seront absolument nécessaires. Et c'est à chaque citoyen de s'y engager aussi, ainsi que pour pousser les services de l'État et les élus à être meilleurs en la matière. C'est-à-dire que on vient de vivre une crise Covid avec des outils de protection comme les masques, les gants, etc. On se rend compte qu'il y a énormément de masques qui ont été jetés dans la nature, ainsi que des gants. Moi, je trouve ça complètement dingue. J'imagine que vous aussi. Et donc, les mégots, c'est pareil. Tout ce qui peut, les pesticides, les insecticides, le glyphosate, les engrais, enfin, à tous les niveaux, toutes les professions, et chacun d'entre nous doit faire très attention à ce qu'il rejette dans l'eau. C'est pareil avec les shampoings, c'est pareil avec les dentifrices, c'est pareil avec tous les produits que nous utilisons. Donc, il faut être extrêmement soucieux de la qualité des eaux, parce que c'est l'eau qui en effet conduit et transporte les bactéries et les virus d'un point à un autre. Et il y a déjà des virus et des bactéries naturelles. Celles qu'on rajoute, par exemple sur les microfragments de plastique qui sont bien trop nombreux dans les espaces naturels, et ben ça fait une espèce de soupe qui un jour de soupe toxique qui un jour va provoquer des crises comme celles qu'on vient de connaître avec la Covid-19.
Réponse rapide à la question de Sarah, question ponctuelle. Mathieu, vous l'avez dit dans votre introduction, mais on va la reposer puisque manifestement Sarah a besoin de cette réponse. Que désigne le terme eau de baignade là dans le rapport de l'évaluation de l'Agence européenne pour l'environnement?
Ben, sur toutes les eaux, on peut nager, ouais. Que ce soit la mer, justement, les fleuves, les lacs, les rivières, les étangs. Est-ce que vous avez un complément de réponse, Élodie Martini-Cousty?
Non, c'est tout à fait ça, les eaux de baignade, les eaux liées au loisir.
Voilà, douce ou salée.
Voilà, douce ou salée, c'est noté. Donc ça n'inclut pas les piscines, j'imagine qu'il y avait peut-être ça derrière la question. Stéphane nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, je voulais apporter une petite explication quant à la pollution des eaux de baignade, qui sont souvent lors de phénomènes pluvieux importants. C'est qu'en fin de compte, le réseau pluvial qui ne transite pas par une station d'épuration, qui se rejette naturellement en gravitaire dans le milieu naturel, eh ben, dans ce réseau, il y a encore des piquages, des arrivées parasites d'eau usée, en fait. Des gens qui ne sont pas encore raccordés ou qui ont dans un garage un évier ou une machine à laver, qui est piqué directement sur la conduite d'eau pluviale. Mmh. Et en période sèche, ces petits écoulements stagnent un petit peu dans le réseau. Et quand il y a un gros apport d'eau, une grosse pluie, eh ben, ça arrive tout d'un coup forcément au rejet en mer ou dans le milieu naturel, quoi. C'est l'explication.
Merci pour cette précision. Ça, c'est une source importante de pollution, Élodie Martini-Cousty?
Bah, les sources les plus importantes de pollution qui causent en effet les gastro-entérites, c'est surtout
les effluents d'élevage et les stations d'épuration. Et ce monsieur a raison quand il dit que suite aux pluies, vous avez aussi des effluents qui ne sont pas traités par certaines stations d'épuration. Mais aujourd'hui, en France, dans les plans locaux d'urbanisme, les raccordements sont quand même extrêmement bien faits. En revanche, en effet, les eaux pluviales ne sont pas traitées par les stations d'épuration parce que il nous faudrait des stations d'épuration absolument gigantesques. Oui. Et donc, en fait, chaque personne, chacun est responsable de ses eaux pluviales. Mais quand on voit l'artificialisation des sols, que ce soit sur nos littoraux ou dans nos villes, ben ces eaux pluviales, quand elles tombent sur le sol, au lieu d'être intégrées dans le sol en profondeur, elles ruissellent avec une force de lessivage des terres et des sols pollués. Et tout ça arrive à la mer. Donc c'est plutôt ça qui contribue aux pollutions fortes et au risque des rischiacolis d'entérocoques. Et on l'a très bien vu au mois de janvier en Bretagne, en Sud-Bretagne, quand il y a eu des très très fortes pluies.
Élodie Martini-Cousty, Mathieu nous disait tout à l'heure que dans ce classement européen, la France n'arrive qu'à la 18e place. Pourquoi est-ce qu'on est mal classé et qu'est-ce que les autres font de mieux que nous et dont on pourrait s'inspirer ?
Alors je pense qu'on est mal classé parce qu'on est un pays d'élevage. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup d'élevage en France et c'est vrai que ben, les effluents d'élevage c'est une forte cause de pollution bactériologique et microbiologique des eaux. Et puis en effet on est un des pays par rapport à l'Allemagne par exemple. Où on a à peu près, enfin ils sont plus nombreux que nous, mais nous on est un pays très artificialisé, c'est-à-dire nos sols sont tellement artificialisés que ce que je venais de vous dire, nos eaux pluviales ne peuvent plus être absorbées par nos sols, et ça c'est une cause mais majeure de pollution. Mmh. Et ça donc les Allemands, ils ont un territoire quasiment aussi vaste que le nôtre, ils sont deux fois moins artificialisés. Donc c'est un enjeu majeur de désartificialiser toutes les terres actuelles pour retrouver un niveau d'absorption de nos eaux pluviales. Et puis il faut recréer des zones humides. La loi exige que toute zone humide détruite pour un projet, la dame a cité tout à l'heure un magasin IKEA, ben soit compensée à 200%. C'est-à-dire que le périmètre de la zone humide détruite soit multiplié par deux. Le problème, c'est qu'entre le moment où elle sera détruite et le moment où sera recréée 200% de cette zone, eh bien, il y aura des fonctionnalités qui n'existeront plus pendant un certain nombre de temps. Et voilà. Mmh. Donc, ces bonnes idées-là, qui sont fondées sur les qualités essentielles de nos écosystèmes naturels, ce sont les meilleures idées parce que ce sont les moins chères pour le citoyen et les moins chères pour la société de conserver ces capacités physiologiques de nos territoires à absorber les eaux pluviales et aussi les pollutions.
Merci Élodie Martini-Cousty d'avoir répondu à nos questions, vous qui êtes à la fois à France Nature Environnement et au Conseil économique, social et environnemental. La Terre au carré, ça continue après 14h. Mathieu, quel est le sujet de la rediff aujourd'hui ?
Eh bien, on fera connaissance avec Ingrid, une éleveuse de brebis qui n'est pas l'ennemi des loups.
Eh bien, c'est noté. À tout à l'heure, 14h, et à demain dans le grand rendez-vous.